Nous accueillons maintenant Madame Marie Borel, qui est journaliste, auteure, qui a dirigé pendant 15 ans la rubrique santé du magazine Psychologie, qui a dirigé la rédaction des mensuels Médecine douce et Médecine naturelle, qui a écrit de nombreux titres pour la presse magazine, dont Actuel, Enfant Magazine, OK Magazine, Marie France, Avantage, etc., etc., et qui a collaboré sur France Inter aux émissions L'Oreille en coin et CO2 Mon amour, qui se consacre actuellement entièrement à la publication de ses livres et dans la collection 81 façons, je crois, c'est chez Trait Daniel.
C'est ça.
Qui a écrit Échapper à la culpabilité, sortir de la déprime, se réconcilier avec son corps, s'aimer soi-même, éviter la jalousie et 32 autres titres. Qui a écrit aussi Le stress n'est pas une fatalité aux presses du Châtelet, L'envie de guérir chez Bellefond, et qui a apparemment apparaître Divorce zen aux presses du Châtelet, Le guide du bien-être chez Solar, voilà. Et La vie saine chez François. Sur cette présentation, madame, je vous laisse la parole.
Merci. Bonjour, d'abord. Merci d'être là. Ce dimanche après-midi pluvieux et un peu grisou. Cette petite présentation, c'était simplement destiné à vous montrer que j'ai une position qui n'est pas du tout la même que celle des autres conférenciers ici. J'ai vu sur le programme que tout le monde était thérapeute, donc intervenait en position de thérapeute, de clinicien, à partir de l'expérience d'une pratique. Moi, je suis journaliste et j'ai une position d'observateur extérieur par rapport à tout ce type de sujet. Donc, tout ce que je peux vous livrer, c'est l'observation que j'ai pu faire, moi, d'un certain type d'informations, en étant bien sûr moins précise et moins approfondie que quelqu'un qui le pratique tous les jours et qui est en contact avec la demande des patients. Mais peut-être que ma position me permet d'avoir une vision un peu plus large, plus globale, et de tirer des fils à partir d'éléments plus divers. Et surtout, ça m'a permis, au cours de cette carrière, qui commence à être un peu longue, d'avoir des moments de passion par rapport à des sujets. Et en gros, mes grands moments de passion par rapport à ce métier et à ce type d'information, ça a été quand j'ai découvert les relations qui unissent le soma et la psyché, la tête et le corps, et l'extraordinaire territoire que représente ce continent extraordinaire que, pendant un certain temps, la médecine, il faut bien le dire, en Occident, a complètement laissé de côté. Alors, le titre de cette conférence, c'est un petit peu une boutade, somatiser, ça sert à quoi ? Mais on va essayer quand même de dégager quelques actes et de donner quelques petites réponses. Ce qui est évident, c'est que moi, ce matin, par exemple, quand je me suis réveillée, après avoir passé une très bonne nuit, j'étais en pleine forme, j'ai pensé à cette conférence et immédiatement, j'ai senti que mon corps se mettait à battre un peu plus fort, que je devais avoir les joues un peu plus rouges, que j'avais un petit peu le trac de vous retrouver. J'avais un petit peu le trac aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'être là avec une position un peu différente des autres intervenants. Et immédiatement, mon corps a parlé ça. Mon corps a dit ce qui était déclenché par cette toute petite idée. Et je crois que notre corps parle absolument en permanence. Et notre corps est le révélateur d'un tas de choses que nous savons ou que nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il nous parle soit pour confirmer, pour nous dire ce que nous savons, comme c'était le cas ce matin, je savais très bien ce trac qui me tiraillait. Mais il y a des tas de moments aussi où notre corps parle pour nous dire les choses que nous ne voulons pas nous dire, que nous ne pouvons pas nous dire, les choses qui sont cachées, qui n'arrivent pas à notre conscience. Et à l'intérieur de notre organisme, il y a un incessant dialogue entre nos différents systèmes biologiques, entre nos différents organes. Et ça, c'est quelque chose, en revanche, qu'on sait depuis peu. Quand on regarde un peu l'histoire de la médecine, depuis très longtemps, on s'aperçoit qu'on a considéré l'être humain sain et l'être humain porteur de maladies comme une entité, comme un ensemble d'un corps et d'un esprit, d'un corps et d'une âme même, le tout fonctionnant de manière cohérente et ensemble. Et puis, il y a eu la grande rupture de Descartes au XVIe et cette volonté de séparer les différentes entités pour pouvoir les observer. Observer différemment le fonctionnement du corps, le fonctionnement de chaque organe, le fonctionnement de l'esprit. Ça a été une autre façon de penser le monde qui se justifiait par cette volonté de connaître, d'observer pour comprendre et pour connaître. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est cette observation elle-même qui a amené la science à redécouvrir la globalité de l'individu. C'est par l'observation de plus en plus fine de nos mécanismes biologiques qu'on s'est aperçu qu'effectivement, à l'intérieur de notre corps, il y a un dialogue permanent entre notre cerveau et notre système immunitaire, par exemple. C'est peut-être pas par hasard que dans le langage courant, quand on est enrhumé l'hiver, on ne dit pas « un rhume m'a attrapé », on dit « j'ai attrapé un rhume ». La forme est active. Ça représente très clairement dans le langage le fait que ce n'est pas le virus qui nous attrape, c'est nous qui, à un moment donné, ouvrons la porte à cet agresseur. Des agresseurs, on en est entouré en permanence. On est entouré de milliards de germes à chaque seconde qu'on est susceptible qui sont susceptibles de pénétrer dans notre organisme par toutes nos voies d'ouverture, la respiration, le contact avec la peau, etc. Si à un moment, un germe trouve la porte d'entrée, c'est que notre système immunitaire n'a pas fait son travail. On est doté quand même d'une armée extraordinairement efficace et très subtile qui en permanence exerce ses défenses et nous protège contre l'agression de tout ce qui n'est pas nous-mêmes. C'est une armée qui fait la différence entre le soi et le non-soi, le soi et l'autre, le soi et le monde extérieur. Si à un moment, cette armée a une faille, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce quelque chose est très souvent sous dépendance psychologique. On sait aujourd'hui que nos émotions, par exemple, nos états émotionnels, se traduisent dans le cerveau par des sécrétions de neurohormones particulières, que ces neurohormones ne circulent pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans l'ensemble de notre organisme, que les globules blancs ont des capteurs qui reçoivent, qui sont capables de recevoir les messages de ces mêmes neurohormones. Et c'est un incessant dialogue à l'intérieur de nous entre ces différents systèmes biologiques et qui permettent à notre corps d'être au courant de nos états d'âme, mais qui permet aussi à notre cerveau d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ce qui est extraordinaire aussi là-dedans, c'est que notre corps, on dit notre moi, tandis moi, notre entité psychique. C'est quelque chose qu'on a l'impression de connaître, plus ou moins. C'est une entité stable et en évolution, c'est-à-dire quelque chose qui est dans l'enrichissement permanent, dans la transformation permanente, mais pas dans le renouvellement incessant. Or, notre corps, il est dans le renouvellement incessant. Les cellules, notre système immunitaire se renouvelle tous les 2 jours. Les nouvelles cellules sont des nouvelles cellules. Et pourtant, notre corps fonctionne comme une entité, un tout, avec une façon de fonctionner qui est à lui. Nous avons un terrain, par exemple, nous avons des types de fragilité qui perdurent, et ce renouvellement cellulaire ne met pas en péril cette identité du corps. On a une identité du psychique et une identité du corps. Et c'est entre ces deux identités que se passe ce dialogue qui fait que notre corps peut parler de ce que nous sentons au même titre que nous pouvons parler de ce que nous sentons. Pourtant, même quand on n'est pas malade, cette complémentarité-là se manifeste. Regardez nos sens, par exemple, nos organes sensoriels. Quand on touche quelque chose, j'ai des capteurs sensoriels au bout des doigts qui vont sentir cette étoffe. Il y a des messages d'origine des influx nerveux qui vont amener à mon cerveau la sensation de ça. Mais la plupart de nos perceptions sensorielles sont retraduites après par le cerveau. Ce que je vois c'est mon cerveau qui retraduit les influx nerveux en les mettant en relation avec ce que j'ai vu précédemment. C'est une reconstruction mentale et cérébrale de l'influx sensoriel. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une totalité de cet organisme qui fonctionne avec sa dimension somatique, avec sa dimension corporelle et avec sa dimension psychique émotionnelle. Tout notre vécu sensoriel est présent dans chacune de nos sensations. Alors, elles nous disent quoi, nos somatisations? Elles nous disent quoi? Ben d'abord, elles permettent à notre corps de dire tout ce que nous n'arrivons pas à dire avec des mots. Ce que nous ressentons en permanence, notre relation avec le monde, notre relation avec les autres, notre relation avec notre histoire, ce que nous avons vécu précédemment, tout ça se manifeste, c'est le contenu de notre vécu. Une partie seulement nous est accessible de façon consciente. Nous sommes conscients d'un certain nombre de choses. Il y a tout le reste, il y a tout ce qui s'inscrit dans le corps, il y a tout ce aussi que fait notre corps en permanence pour s'adapter aux situations. Quand on est dans une situation de stress, toute banale, notre corps réagit en sécrétant un certain type d'hormones, en préparant notre organisme à un certain type de réaction en fonction d'un stimuli extérieur. Ce sont des phases d'adaptation qui se déroulent de façon invisible et silencieuse à l'intérieur de nous, mais qui existent bel et bien. C'est comme ça que les stress trop longs, trop intenses, trop prolongés finissent par provoquer dans le corps des réactions physiologiques tout à fait mesurables. À ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait de somatiser, c'est-à-dire le fait que cet excès, ce déséquilibre intérieur se manifeste à l'extérieur, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ce moment-là, la maladie, la manifestation somatique est un signal d'alarme, quelque chose comme une chance de réagir, de mieux se connaître, de mieux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui n'est pas adapté, où se situe la rupture d'harmonie entre nous et notre environnement, entre nous et notre fonctionnement intérieur. Cette rupture d'harmonie, à certains moments, nous ne sommes pas en mesure de l'apercevoir parce que nous essayons de nous adapter à des situations que nous pensons ne pas pouvoir changer. Prends les situations de stress normal, le stress professionnel, le milieu professionnel compliqué, difficile, violent, exagérément tendu, etc., l'excès de fatigue, les mauvaises relations avec l'environnement. On essaye de s'adapter, on se dit « je ne peux pas changer, ça n'est pas le moment, dans ma vie, je ne peux pas assumer ça en ce moment ». Il y a un moment où ça peut être le corps qui nous dit, qui nous exprime que oui, c'est le moment, que oui, c'est possible, que oui, il faut le faire parce qu'il est arrivé au bout, lui, de sa capacité d'adaptation. Dans ces moments-là, peut-être que le corps nous dit ce que nous n'osons pas nous dire, mentalement, consciemment, et qu'à ce moment-là, le message du corps peut nous amener à résoudre des situations que nous ne nous autorisons pas à résoudre habituellement. C'est pour moi peut-être le plus important, l'aspect le plus important du sens de la somatisation, à une condition cependant. C'est que justement la somatisation nous incite à trouver le sens de nos manifestations symptomatiques. Je souffre, j'ai quelque chose. Que ce soit la répétition de petites infections, par exemple, de manifestations somatiques banales. J'ai un rhume tous les lundis matin en retournant au bureau. J'ai une poussée d'herpès à chaque retour de vacances. La répétition de ces petites choses banales nous dit quelque chose, nous exprime quelque chose de la difficulté à vivre ces situations. La somatisation, elle peut nous servir dans ces moments-là, justement, à trouver la piste de quelque chose de caché à l'intérieur de nous. Si on cherche le sens de nos maladies, on peut toujours trouver quelque chose. Alors, C'est un peu un piège aussi, parce qu'on peut toujours aussi se dire on peut trouver n'importe quel sens et c'est un peu le tout et n'importe quoi. Mais je crois qu'on n'y risque pas grand-chose, même si on se trompe, même si à certains moments on extrapole et on se trouve des raisons qui n'en sont pas vraiment. Il est beaucoup plus bénéfique pour l'économie psychique et pour l'économie somatique en général d'essayer de chercher un sens à nos troubles physiologiques, d'essayer de trouver un sens à nos maladies. Non seulement parce que ça peut nous amener beaucoup plus facilement sur le chemin d'une guérison, sur le chemin d'un choix thérapeutique adapté, mais aussi parce que je crois que c'est une quête de soi de chercher le sens de ces symptômes. Je crois vraiment que c'est une quête de soi et que au-delà de la résolution éventuelle du symptôme, c'est aussi une façon de pousser la porte d'un autre univers, de ce qui va permettre de répondre à des questions comme pourquoi est-ce que je vis ça ? Qu'est-ce qui m'a amené à me mettre dans ces situations ? Qu'est-ce qui m'a amené à répéter des situations qui me sont douloureuses au point que ce soit mon corps qui me dise qu'il faille arrêter ? Il me semble que c'est un des grands domaine dans lequel on peut radicalement, par notre façon d'être par rapport à la maladie, changer quelque chose dans notre relation avec nous-mêmes. Et donc, dans notre relation à la vie, aux autres et à ce que nous faisons de notre corps. Vous avez peut-être constaté tout à l'heure, quand monsieur faisait un peu un détail de certains des titres que j'ai publiés, tout ça tourne autour de la notion de bien-être. Une notion qu'on voit beaucoup en ce moment et dont certains disent que c'est un peu la quête du bien-être et du bonheur à tout prix, qu'il faut absolument être bien, que c'est un stress supplémentaire. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas être bien, c'est être le mieux possible à un moment donné, avec soi-même, avec les autres, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on sait de nous. C'est un chemin. C'est pas un but. Il n'y a pas un moment où je peux me dire je suis bien. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'équation, j'ai trouvé les outils, j'ai fait mon marché, j'ai mis dans ma besace ce dont j'avais besoin, mes concepts alimentaires, mes petites plantes, mes séances de relaxation, etc. Maintenant, je sais, je suis bien. Voilà, c'est fini. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un chemin où on fait en permanence le mieux possible, en sachant que les ruptures sont inévitables, que je crois que c'est même pas imaginable d'imaginer, de vouloir être bien tout le temps. Je pense que ce serait d'un ennui mortel, d'ailleurs. Et il me semble que ce sont ces ruptures dans notre état mental, dans notre humeur, dans notre adaptation à l'environnement, dans la façon dont fonctionne notre corps, ce sont ces ruptures qui nous réveillent et qui nous révèlent. Et à ce titre, on peut, je crois, les apprécier et parfois même et leur dire merci, c'est peut-être un peu exagéré, parce qu'il y a des moments, quand on souffre, on n'a pas du tout envie de dire merci à la souffrance, mais ça ne serait pas loin de ça. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est de dire merci à notre corps en dehors des moments de souffrance. Donc on a une fâcheuse tendance à penser à lui uniquement quand il va mal, quand il se rappelle à l'ordre, quand on a une douleur ici, quelque chose qui nous empêche de fonctionner, quand on tousse, quand on se mouche, quand on a des choses désagréables. À ce moment-là, on le prend en considération, ce corps, parce qu'il a des ratés, on lui en veut, on voudrait que ça guérisse plus vite, on voudrait que cet ustensile soit à nouveau à notre disposition. Comme si, effectivement, c'était un ustensile. Ça n'est pas un ustensile. C'est une partie de l'entité qui fait nous. C'est une machine incroyablement complexe et subtile qui nous rend des services incessants tous les jours, à chaque seconde, même quand on dort, même quand on va mal. Et on n'a jamais, pour lui, la moindre pensée compassionnelle quand il souffre et la pensée de remerciement quand il va bien. Ça me chagrine un peu. Moi-même, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un peu plus de gentillesse à son égard. Parce que je crois vraiment qu'il le mérite. Un petit écart, tiens. Moi, quand je parle de ce genre de sujet, je ne peux pas résister à l'envie de parler de l'effet placebo. Parce que l'effet placebo, ça a été le déclencheur dans ma carrière et dans mon intérêt pour ce type de sujet. Ça a vraiment été le déclencheur, la porte qui s'est ouverte sur ce territoire. Moi, je dis comme tout le monde, hein, l'effet placebo, je m'avais entendu parler, tout le monde en entend parler. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'une réaction du corps qui arrive à se guérir tout seul en prenant des pilules de sucre. Je pensais à l'époque que c'était une espèce d'artefact, que c'était une toute petite proportion, un mécanisme inexpliqué mais très réduit. Et puis un jour, je suis tombée sur des chiffres et je me suis aperçue que, selon les études, le placebo arrivait à provoquer parfois jusqu'à 75-80% d'effets positifs, c'est-à-dire d'amélioration des états pathologiques. Et j'ai été proprement sidérée. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un mécanisme pareil soit traité par la science officielle de façon aussi mineure? On lui a trouvé une place à l'effet placebo. En fait, on en a fait un instrument. Depuis 1975, il fait partie officiellement des outils qui permettent de tester l'effet des médicaments. C'est-à-dire que quand on teste une nouvelle molécule, on choisit deux groupes d'individus porteurs de la même maladie. À l'un, on donne le médicament. À l'autre, on donne un médicament ayant exactement la même forme, la même couleur, etc., la même apparence, le même mode d'administration, mais vide de substances actives. Et puis après, on mesure les résultats dans un groupe et dans l'autre. En général, les expérimentations sont faites en double aveugle, c'est-à-dire que ni les malades, ni les médecins qui leur administrent les médicaments ne savent s'ils administrent un placebo ou un vrai médicament. Et puis après, on mesure de façon mathématique. Puis si le médicament a plus d'effet que le placebo, on dit le médicament marche. Et puis s'il en a moins, on dit il ne marche pas. Et puis voilà. Mais là, dans cette salle, si aujourd'hui, en admettant, nous avions tous des maux de tête, par exemple, et qu'on nous donne un placebo, il y aurait une personne sur deux qui verrait ses maux de tête disparaître. C'est énorme, c'est colossal, et ça veut dire que nous avons en nous des mécanismes qui sont un peu l'autre face de ceux dont nous parlions tout à l'heure, des mécanismes de guérison, c'est-à-dire des mécanismes de rétablissement. Autant notre corps, notre entité corporelle, peut à certains moments se déséquilibrer, se désharmoniser et fonctionner plus mal parce que nos états émotionnels, mentaux, notre hygiène de vie fait que nous le mettons à mal d'une certaine manière, autant il dispose des mêmes mécanismes de rétablissement de santé. Et dans des proportions colossales, tellement colossales qu'on en arrive à se dire que tous les médicaments, toute médication, tout acte médical porte une part de placebo. Le vrai médicament, quand il agit grâce à une substance qu'il contient, mais il agit aussi grâce à la confiance que l'on porte au médecin qui a délivré l'ordonnance. Tout ça auréole la substance active et il est très difficile de mesurer avec précision, quand un médicament est efficace, quelle est la part biologique, chimique et quelle est la part de cet environnement qui est de l'ordre du placebo. Il y a même eu des expérimentations extraordinaires sur la chirurgie. On a pensé quand même que l'acte chirurgical, où il n'y avait même pas donc ce support de matière de la goutte ou du comprimé, était vraiment un acte médical dénué totalement de cette dimension. Ben, ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu dans les années 60, aux États-Unis, il y a eu une étude faite par un chirurgien cardiaque qui s'appelait Cobb, je crois, où à l'époque, pour soigner l'angine de poitrine, on faisait des ligatures de l'artère mammaire interne, si je me souviens bien. Et puis, à une époque, ils se sont demandé si les améliorations de l'état des malades étaient vraiment dues au geste opératoire, parce qu'on ne voyait pas très bien la relation entre les deux. Donc, il a fait une expérimentation, pas en double aveugle, mais en simple aveugle, puisque à ce moment-là, il faut bien que les praticiens sachent s'ils font la vraie opération ou s'ils font simplement une incision cutanée pour que le malade croit qu'il a été opéré. C'était donc des expérimentations en simple aveugle, et il s'est avéré que le groupe de malades qui avait reçu la fausse opération, mais qui croyait avoir été opéré, a eu un taux de récupération bien plus important que le groupe réellement opéré. Et c'est une expérience qui a été refaite, enfin pas refaite, mais il y a une autre expérience du même genre qui a lieu crois, ou l'année dernière peut-être, mais je crois qu'ils sont encore en train de mesurer les effets à long terme, dans un hôpital du Colorado, sur la maladie de Parkinson, où depuis quelques années, on fait des greffes de cellules fœtales dans le cerveau pour soigner les parkinsoniens. Et il y a eu une expérimentation en simple aveugle, mais autorisée par le comité d'éthique américain, pour vérifier si ces greffes étaient réellement efficaces. Et il s'est avéré que les patients ayant reçu la fausse opération avaient des résultats au moins aussi importants que les autres, parfois même supérieurs sur certains symptômes, et qu'au bout d'un an d'études sur les deux groupes, donc celui qui avait subi l'opération et celui qui ne l'avait pas subi réellement, les résultats étaient efficaces, enfin se vérifiaient à long terme. Ça laisse quand même rêveur, ce genre d'expérience. Et il y en a beaucoup comme ça dans le domaine du placebo. Il y en a une autre, par exemple, moi, qui ne cesse de m'interroger. Elle est un peu plus vieille, celle-là. Ça se passait dans les années 50 aux États-Unis, toujours. Un médecin de ville, de cabinet, qui avait une patiente asthmatique, très asthmatique, grave, qui résistait à tous les traitements. Les traitements perdaient vite de son effet sur elle. Et il a su qu'une nouvelle molécule était à l'étude. Donc, il a demandé à sa patiente si elle voulait essayer la nouvelle molécule. La patiente a accepté, donc. Elle a eu sa crise d'asthme. Il lui a prescrit son petit médicament. Elle est rentrée chez elle. Elle l'a prise, le médicament. Là, lui a fait énormément de bien. Elle est revenue très contente, lui en demandant une nouvelle boîte. Et là, le médecin lui a donné une boîte de placebo que lui avait transmis le laboratoire pour l'étude. Et la dame est revenue en disant « Je ne comprends pas, votre médicament ne m'a rien fait du tout cette fois-ci ». Donc le médecin était très content, il s'est dit vraiment, le médicament, c'est un vrai médicament efficace, il a recommencé l'expérience deux ou trois fois. Quand il lui donnait le vrai médicament, ça marchait, quand il lui donnait le placebo, ça ne marchait pas. Donc il a fait son petit rapport au laboratoire, et il a reçu une lettre qui l'a beaucoup interpellé par retour de courrier, c'est que le laboratoire lui expliquait qu'il y avait eu une erreur et qu'il n'avait reçu que des placebos. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a une information qui a circulé entre le médecin et son patient, puisque à ce moment-là, la dame a réagi non pas au médicament, mais à l'intention du médecin. Quand le médecin croyait lui délivrer un placebo, ça ne marchait pas. Quand il croyait lui délivrer un médicament, ça marchait. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est très frustrant. Parce que, bon, on le constate, ces facultés d'auto-guérison existent. On a donc tous à l'intérieur de nous ces équipements qui nous permettent de nous guérir. Comment on fait? Sur quel interrupteur faut-il appuyer pour déclencher? On ne le sait pas. C'est ça le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne le sait pas. Le temps passe, donc peut-être conclure provisoirement pour en revenir à la psychosomatique et à somatiser, ça sert à quoi? Somatiser, ça sert donc, à mon sens, à mieux se connaître, à mieux entendre les messages que nous ne pouvons pas entendre le reste du temps. Mais c'est peut-être aussi un pont entre les différents types d'approches médicales. C'est peut-être là où, en tant que patients, nous avons un rôle à remplir. Si nous sommes conscients de ces processus psychosomatiques, nous pouvons, nous, inciter les médecins à prendre en compte la totalité de notre personne dans l'acte thérapeutique, à chercher les médecins qui pratiquent comme ça, à associer les différents types d'approches dans notre vécu de patient. C'est peut-être entre nos mains que repose le fait de continuer à faire évoluer la médecine dans ce sens-là.
La question que je me pose, c'est finalement, cet effet placebo peut être induit par le praticien, mais est-ce qu'il peut être aussi introduit par le patient lui-même?
Bien sûr, c'est une interaction, je crois, cet effet placebo. C'est une interaction, et c'est une interaction qui a existé de tout temps dans le processus thérapeutique. C'est une rencontre, je crois, entre le désir de guérir du patient, le désir de soigner du médecin. C'est une interaction entre la confiance que le patient peut mettre dans le médecin et la confiance que le médecin peut mettre dans les capacités de guérison de son patient. C'est peut-être aussi la rencontre entre le savoir technique et irremplaçable du médecin, mais aussi le savoir intime et irremplaçable que le patient a de lui-même, de ses réactions, de son propre corps, même si une maladie a des symptômes clés que l'on connaît. Il n'y a pas deux personnes qui les manifestent exactement de la même façon, exactement au même moment, exactement dans les mêmes circonstances émotionnelles, dans les mêmes circonstances de vie, aux mêmes horaires dans la journée. Tout ça, c'est la connaissance intime que le patient possède de lui-même. Et quand cette connaissance rencontre la connaissance technique du médecin, alors la relation thérapeutique existe. Et le placebo naît de cette rencontre-là.
Autre question ?
Non, bon, on peut continuer un peu alors. Mais on a l'impression de redécouvrir des choses dans notre médecine occidentale. Mais quand on regarde un peu en arrière dans les ethnomédecines, on s'aperçoit que cette globalité est dans la conception de la maladie et dans la mise en œuvre des moyens thérapeutiques, elle a toujours existé. La médecine chinoise, par exemple, est une médecine psychosomatique. La médecine ayurvédique indienne est une médecine entièrement psychosomatique. En médecine chinoise, par exemple, par le biais de relations symboliques entre ces cinq éléments clés qui sont le bois, la terre, l'eau, le feu et le métal, qui sont comme la toile d'araignée des correspondances de tout l'univers, tout est lié à un élément. Les organes du corps, les planètes, mais aussi les plantes médicinales, les aliments, et aussi les émotions. On sait par exemple que l'élément bois régit l'organe du foie et, je crois, la colère. Ce qui veut dire qu'il y a une association très, très proche et pragmatique entre cette émotion, cette fonction corporelle, le méridien d'énergie qui nourrit cette fonction corporelle, et qu'on peut intervenir sur l'un et l'autre plan, sur le plan purement somatique et sur le plan psychique, par les mêmes outils, par l'intermédiaire de cet élément symbolique. En médecine ayurvédique, la présence de l'écologie intérieure, de l'écologie mentale, est très importante. Et les médecins en Ayurveda vous disent qu'on ne peut pas soigner un corps si les pensées ne sont pas justes. Dire le travail va porter d'abord sur le rétablissement de l'émotion juste et de la pensée juste, et après on va pouvoir traiter le corps par énormément de moyens d'ailleurs qui relèvent de l'hygiène de vie, c'est-à-dire d'une alimentation adaptée, d'un rythme de vie adapté, d'horaire, de lever, de coucher adapté, etc., d'exercice physique. Donc on est vraiment là dans une notion de globalité qui a 4000 ans, 5000 ans, selon les thérapies. Et quand on regarde beaucoup plus près de nous, dans des périodes où les médecines étaient empreintes de magie, je pense à la médecine de l'Égypte ancienne, par exemple, qui n'a pas ce caractère de cohérence des médecines orientales, qui sont parfois émerveillantes quand on pense en plus à l'ancienneté des concepts. La médecine égyptienne classique était beaucoup plus empreinte de magie. Il n'empêche que le fait, par exemple, de porter certaines substances en amulette avait un effet thérapeutique. Beaucoup moins important, bien sûr, que nos antibiotiques. Mais ça soignait. Si on continuait à les pratiquer, c'est que même dans une petite mesure, ça soignait. Et qu'est-ce qui soigne dans une situation comme ça ? Si ce n'est l'effet placebo, c'est-à-dire la relation de confiance entre un malade porteur d'une pathologie, un praticien qui délivre une solution. Dans cette rencontre-là, si j'ai retrouvé une histoire, je crois que c'était le pape Boniface IV, oui, Boniface IV, qui a été guéri de coliques néphrétiques récurrentes, tant Dieu sait s'il y a bien un trouble qui repose sur quelque chose de matériel, précis. Colique néphrétique, c'est quand même provoqué par des caillots. On ne peut pas dire qu'on soit dans la manifestation très psychique. Il a été guéri de ces colique néphrétique par son médecin de l'époque, qui avait mis au point une thérapie assez longue qui consistait à prendre de l'or pur, à le faire fondre à la première heure où le soleil rentrait dans le signe du Verseau, je crois, ou dans le signe du Lion, enfin dans un signe astrologique précis, avec cet or de fabriquer un sceau sur lequel était gravée une parole christique et que le pape devait porter sur lui. Et ce brave pape a écrit dans les textes qu'il a laissés derrière lui qu'il a été absolument guéri de ses coliques néphrétiques qui lui avaient pourri l'existence pendant des années à partir du moment où il a porté son sceau d'or pur sur lui. Ça, c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui parfois dans certains de nos actes thérapeutiques. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui en France, on détient le triste record de la plus grosse consommation au monde de médicaments psychotropes, et aussi celui en Europe au moins de la consommation d'antibiotiques, et que peut-être que ces deux choses sont assez liées, parce qu'on a un recours dans notre médecine classique quotidienne, on a un recours très fréquent à la solution toute faite, à l'objet qui va nous dispenser de faire ce travail de recherche de soi, d'aller chercher le sens de nos manifestations somatiques. C'est comme si la magie résidait dans la prise de la pilule. Or, la prise de la pilule n'est magique que justement quand elle est portée par la relation, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps chez les médecins qui prescrivent énormément ce genre de molécules, vu que s'ils les prescrivent énormément, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, souvent les généralistes dans leur pratique quotidienne, d'entendre les gens, de les écouter. Les médecins de famille, comme ils ont existé il y a quelques décennies, il y en a de moins en moins, surtout dans les villes. Donc on va voir un médecin généraliste qui nous connaît assez peu, qui n'a pas le temps, qui ne peut pas prendre le temps de nous entendre, qui donne une molécule psychotrope pour calmer un peu le stress, parce qu'il se doute bien qu'il y a ça derrière. Et de toute façon, je crois que c'est 80% en gros des consultations chez les médecins généralistes qui sont motivées par des manifestations fonctionnelles, c'est-à-dire par des troubles qui ont de fait une dimension psychologique assez importante. Parce que quand on est dans la lésion de l'organe, il est évident que même si la dimension psychique existe, elle est moins importante. Mais les troubles fonctionnels, qui sont la grande partie des demandes auprès des médecins généralistes, ils savent bien qu'il y a là derrière de l'émotionnel, de la vie difficile, de la rupture d'harmonie, de cohérence intérieure. La seule réponse qu'ils ont, c'est le médicament psychotrope. Et c'est une façon aussi de mettre fin à ce qui pourrait être l'utilité du symptôme. Les gens arrivent avec un symptôme qui est un signal d'alarme, qui leur dit une rupture, qui leur dit un malaise, qui leur dit une difficulté. Le fait d'être opposé à ce moment-là à cette molécule qui endort le symptôme, ça met un peu fin à ce qui pourrait être le début d'un chemin, et c'est dommage.
Mais dernièrement, il y a eu un vaste tollé, là, parce qu'on ne voulait pas rembourser les médicaments homéopathiques. Donc, je veux dire, il y a aussi ce problème des laboratoires pharmaceutiques, et ça n'encourage pas, justement.
Oui, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique a encore une grande puissance, même si, de fait, elle la perd à cause des problèmes de nos assurances sociales, qui ont tendance à essayer de serrer la vis des remboursements, et forcément ça passe par le remboursement du médicament. Donc pour une fois, on dirait qu'il y a un mécanisme de régulation là, qui fait que l'industrie pharmaceutique perd une partie de sa puissance par le mécanisme même qui la lui avait accordé. Je trouve ça assez sympathique, moi. Mais oui, ça existe, ça se fait. Mais c'est vrai aussi que malgré les demandes de l'Académie de médecine à propos de l'homéopathie, les médicaments homéopathiques n'ont pas été déremboursés.
Mais peut-être parce qu'il y a quand même quelque chose dans l'air qui commence à prendre, parce qu'il y a une espèce, pas vraiment un rapport de force, mais on est dans quelque chose de nouveau.
Il y a, je crois, une poussée qui vient des patients eux-mêmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas mésestimer le rôle qu'on a en tant que patient et la possibilité qu'on a de demander, d'exiger d'être soigné d'une manière ou d'une autre, de choisir les thérapeutes qu'on va voir selon les critères qui nous semblent importants, parce qu'effectivement, il y a une espèce de poussée de changement des mentalités qui s'est faite plus par le biais des patients que par le biais du corps médical. Même si à l'intérieur du corps médical, ça a bougé, et ça bouge de plus en plus vite, et qu'on rencontre de plus en plus de praticiens qui s'ouvrent. Il y a 20 ans, quand on parlait d'homéopathie, on se faisait traiter de charlatan notoire. Bon, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une jeune femme, praticienne hospitalière, qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien savoir un peu plus sur l'homéopathie, parce que moi, j'y connais rien, mais j'ai entendu dire que ça soignait certains types de troubles, et moi, j'ai justement des patients à qui je n'ai pas beaucoup de réponses à donner avec mes moyens, donc j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce que vous pouvez me donner des adresses de médecins homéopathes chez qui je puisse les diriger ?» J'ai trouvé ça extrêmement rassurant, ça m'a fait très plaisir, et je crois que ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture à l'intérieur du corps médical. Il faut continuer.
Moi aussi, j'y crois facilement, parce que même en ce qui concerne la lutte des médecins homéopathes, des acupuncteurs, et enfin, il y avait des catégories de médecins qui n'étaient pas reconnus à une période et qui maintenant, de plus en plus,
oui, bien sont sûr. Reconnus.
Je pense aussi à un médecin en particulier, il y a longtemps, qui s'appelle Athias, je ne sais pas si vous avez
oui, entendu parler. Oui.
Bah, il a jusqu'à été rayé de l'ordre, enfin, on n'en pas ce qu'on en veut, mais je veux dire que c'était quelqu'un qui s'était imposé avec une théorie particulière. Et à chaque fois qu'on avait des idées un peu particulières, on était mis au
bord. Oui, il y avait quelque chose de très idéologique dans la démarche médicale, qui l'est un peu moins maintenant. C'est vrai aussi que la position même du médecin en France, juridiquement, légalement, il est le seul détenteur du droit d'établir un diagnostic et de délivrer un traitement. Que ça, c'est très particulier. Dans les autres pays d'Europe, c'est pas comme ça du tout. Il y a le médecin, mais il y a des professions qui sont à côté du médecin, mais pas paramédicales au sens... En France, le paramédical sont des gens qui pratiquent sur ordre du médecin. Normalement, un kiné n'a pas le droit de vous masser le dos s'il n'y a pas une ordonnance. Bon. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour les ostéopathes non médecins, par exemple, de pratiquer sans encourir les foudres du Conseil de l'Ordre et sans avoir de procès pour exercice illégal de la médecine. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais je crois que c'est aussi parce que d'une part, ces médecines coûtent moins cher. Il y a eu plusieurs études faites par les caisses d'assurance maladie elles-mêmes qui ont démontré qu'un patient suivi et traité par homéopathie coûte 2 à 3 fois moins cher sur une année qu'un patient traité par la médecine allopathique. Je crois que c'est des choses qui sont obligées de prendre en compte. C'est très pragmatique, ils sont obligés de prendre ça en compte aussi. Et puis, tous les gens qui consultent les chiropracteurs, les ostéopathes non médecins, c'est des gens qui échappent au système de remboursement. Et peut-être que ça ne fait pas de mal non plus aux gens qui calculent les manières de rétablir nos assurances maladies.
Merci, madame.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Je vous remercie de votre attention.